Ça, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est assez rare que je parle dans une autre église qu'au centre de vie, parce que je ne sais pas, on a beaucoup de travail, donc voilà. Bob l'a dit, on vient de Neuchâtel, donc vous allez probablement m'entendre dire 80 au lieu de 80, traîner sur les R, désolé, enfin voilà, c'est la Suisse romande. Je suis pasteur jeunesse. Et j'ai l'immense chance de m'occuper principalement des 12-30 ans. Donc il paraît que jusqu'à 30 ans, on est jeune, donc c'est cool déjà. Donc je suis plus jeune par contre, vu que j'ai 37 ans. Et puis, on a des belles choses qui se vivent. Et surtout, ce qui m'encourage à fond, c'est qu'on voit plein de gens qui se tournent vers Jésus. Et ça, encore hier soir, on avait une rencontre avec le groupe de jeunes. Ils étaient en train de préparer le camp de ski, ils étaient dans un chalet, en train de vivre des temps forts avec Dieu. Et notre pasteur principal, Olivier Favre, disait justement que lui, ça fait 50 ans ou presque qu'il est chrétien, et il se rend compte que l'ouverture, enfin, c'est quelque chose de délirant. Enfin, je veux dire, ça, on n'a jamais vu ça, des gens qui se tournent vers Dieu. Et puis, peut-être, si je vais lever les mains maintenant ici, ceux qui ont rencontré Dieu il y a moins de 2 ans, ben, peut-être qu'on peut faire ça. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont rencontré Dieu il y a moins de 2 ans? Ben, voilà, c'est cool. Et puis, je peux vous garantir que dans l'église où j'ai grandi, que j'aime tout plein, ça ne s'était jamais produit. Peut-être que de toute ma vie, de 0 à 18 ans, il y a eu 2 conversions dans mon église. Sinon, il y avait des conversions par naissance. Vous savez, les gens qui font des enfants, puis voilà. C'est bien aussi, mais du coup, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, et moi, je suis tellement réjoui. Cette église, elle nous fait plaisir. Encore avec Clivy, on discutait juste avant, et puis elle disait, c'est trop bien ici. Voilà, donc c'est trop bien ici. Les enfants aussi étaient contents. Ils ont dit que c'était trop bien une église, on peut manger avant. Donc, il faut continuer. Je ne sais pas si vous avez prévu de changer ça, mais il faut continuer. Cool. Yes. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler ce matin. Ah, juste un truc. Je me suis dit peut-être que je devais vous transmettre des salutations, mais vu que je ne vais jamais dans d'autres églises, donc j'imagine que notre église vous salue bien. Je ne l'aurais pas demandé, mais enfin, on va dire que oui. Hein? Et puis, voilà, vous recevez, voilà. Si jamais, voilà, s'ils viennent vérifier, ben, tu dis, voilà, ok, cool. Merci, ça m'arrange. Pas que je me fasse gronder encore. Cool. Voilà, imaginez que vous êtes en 700 avant Jésus-Christ. Je ferai un petit travail de... T'as 25 ans. Ça, c'est cool. T'as 25 ans. Tu te retrouves à la tête d'une nation de quelques millions d'habitants, environnée de pays hostiles qui t'en veulent, puissants aussi. Ton père, il a été roi avant toi et tu hérites de ce royaume à gérer. Tu as des ministres pour te conseiller, c'est d'ailleurs les mêmes personnes qui, avant, conseillaient ton père. Mais manque de chance, ton père, il a fait des mauvais choix avant toi. Il a mal été conseillé. Et puis, par exemple, quand tu étais petit, il a pris quelques-uns de tes frères et puis il les a offerts en sacrifice à un faux dieu, le dieu Moloch. Il les a fait cramer. Voilà. Et puis toi, tu as vu ça, tu as été complètement tétanisé. Tu t'es dit, est-ce que ça va être mon tour? Tu sais jamais. Enfin, voilà, tu ne savais pas sur quel pied danser. Et puis, en fait... Les conseillers de ton père, ils ont dit oui, mais c'est pour te garantir la prospérité, c'est pour te garantir le bonheur, super, faire brûler ses enfants, génial. On a vu d'autres choses pour... hein. Bref. Et puis, tout ça, ça t'a horrifié. T'étais complètement tétanisé. Et pour toi, parce que pour toi, le seul vrai Dieu, c'est Yahvé, c'est celui qui s'est révélé à Moïse 700 ans plus tôt. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique, mon père? Mais il n'a rien capté. Puis enfin, alors là, je le dis, hein, enfin, il meurt. Donc tu peux prendre le pays, redresser la barre, tout ça, voilà. Tu peux enfin redresser le pays. En fait, ce que je viens juste de raconter, c'est un tout petit peu du contexte du livre des Chroniques. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des Chroniques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas les Chroniques de Narnia, c'est les Chroniques de la Bible. Et puis, il y a deux récits parallèles. Il y a les Chroniques, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu l'histoire de la tribu de Judas et de Benjamin qui s'étaient séparés. Enfin, il y a eu une scission à un moment donné dans le peuple d'Israël, et puis il y a eu 10 tribus d'un côté, 2 de l'autre, et les Chroniques, c'est un peu l'histoire de ces 2 tribus, les tribus de Juda et Benjamin, surtout sous l'angle spirituel. Si vous lisez dans la Bible le livre des Rois, ça va plutôt être quelque chose de type plutôt politique, économique. Évidemment, il y a des notions aussi spirituelles, mais les Chroniques, c'est vraiment plus axé sur peut-être l'adoration. Peut-être c'était quelqu'un qui était... un lévite, c'est-à-dire une de ces personnes qui était censée encourager les gens à louer Dieu, qui avait écrit ce livre, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a vraiment le focus sur cette question de l'adoration et de l'aspect spirituel. Moi, ce qui m'a frappé en lisant ces récits, c'est que c'est comme un refrain qui vient tout le temps. Un tel est devenu roi à l'âge de 25 ans, par exemple, ou 12 ans, ou 8 ans, 30 ans, peu importe. Et puis, il y a toujours cette phrase, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel ou il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tout le temps, ça revient tout le temps. C'est comme si chaque génération, elle était évaluée par rapport à son attachement à Dieu. Chaque génération. Il ne suffisait pas qu'une génération ait fait le job avant pour que ça garantisse que la génération suivante, elle marche avec Dieu. Comme chaque génération qui devait à nouveau reprendre un petit peu sa part d'héritage spirituel. Et on lit dans la Bible que Ézéchias, le roi que je vais lire maintenant, était un bon roi. Et on lit ceci, si ça marche, ça marche. Ézéchias, attendez, je vais m'enlever quand même. Voilà. Ézéchias était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait David, son ancêtre. Moi, ça me ferait plaisir que quelqu'un me dise que j'ai fait toutes les choses parfaitement comme mon ancêtre David. Surtout que David, il était bien évalué dans la Bible. Disons que si tu avais plutôt Saül comme référence, ce serait un peu moins bon pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé la question de quelle serait votre première action en tant que souverain d'un pays ? Bon, en général, on ne se pose pas cette question parce que ça risque pas de nous arriver, mais quand même. Par contre, ce qui peut vous arriver, c'est que vous preniez des responsabilités dans le monde politique d'aujourd'hui ou dans une entreprise. Et souvent, il y a ces fameux 100 premiers jours. Les 100 jours d'Emmanuel Macron, les 100 jours de Trump, l'évaluation. Les 100 jours de l'entraîneur du FC Sion, mais ça arrive jamais parce qu'ils ne tiennent jamais 100 jours. En général, ils se font virer avant. Les 100 jours, les fameux 100 jours. Nos premières décisions, elles sont cruciales. Elles sont vraiment importantes. On a besoin de prendre les bonnes décisions, les bonnes premières décisions. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas si simple de prendre déjà des décisions, ensuite de prendre des bonnes décisions, et puis de prendre une première bonne décision. Ce n'est pas facile. Et moi, je pense par exemple aux ados à qui on demande de choisir un métier à 13-14 ans, alors qu'ils n'ont aucune idée de la vie. Enfin, presque, je suis désolé, hein, mais presque. Enfin, vous savez surtout ce que vous n'avez pas envie de faire. Par contre, de savoir ce que vous avez envie de faire, des fois, c'est plus compliqué. Alors moi, j'ai trouvé un truc aux ados dans l'église. Je leur dis, mais qu'est-ce qui t'énerve le plus ? Puis souvent, ça donne un petit indice sur ce qu'il faudrait faire comme métier parce que ça a envie de corriger le truc, tu vois. Donc si l'injustice, ça t'énerve, ou bien, bref, vous pourrez demander à vos parents, ou surtout pas, ça dépend. Moi, j'ai demandé à mes parents, j'ai été orienté d'une certaine façon, je les aime tout plein, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir perdu 3 ans parce que je n'ai pas tout à fait fait la bonne formation professionnelle, parce qu'ils m'ont dit, t'aimes pas les études, alors fais déjà, il faut que tu aies un CFC, voilà. Mécanicien électricien, me voici. Sauf que j'ai jamais était bon dans ce domaine. Et j'ai tout de suite changé. Alors, c'était bien d'apprendre. J'aime bien apprendre. Bizarrement, j'aime bien aimer apprendre. Par contre, j'étais tellement mauvais en pratique que du coup, je me suis vite décidé à faire un autre boulot. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que je rencontre plein de mécaniciens électriciens qui ont changé de métier. Mais bon, c'est pas grave. C'est cool. J'ai eu du plaisir sur les chantiers, mais par contre, j'étais tellement mauvais qu'on me gardait pas. Alors, du coup, j'ai fait un petit peu de chômage, vous imaginez, entre-temps. Voilà. Les premières décisions. Donc ce livre des Chroniques nous dit ceci. Au premier mois de la première année de son règne, il rouvrit les temples de l'Éternel, les portes du temple de l'Éternel et les fit remettre en état. Premier mois de la première année de son règne, alors qu'il a eu l'exemple catastrophique de son père qui a été idolâtre, Ézéchias choisit de rouvrir le temple parce qu'il savait que pour lui c'était important. Ézéchias a décidé de rétablir le culte à l'Éternel au tout début de son règne. Et Ézéchias va prendre plusieurs bonnes décisions et son règne sera solide par la suite. Et lorsque je lisais les chroniques, j'étais frappé vraiment par cette succession de rois. Parce qu'il y a certains rois qui ont mal commencé, mais qui ont bien terminé. On prend par exemple le roi Manassé. C'était une catastrophe ce roi, il a été tellement mauvais, mais mauvais au point de tuer même, on pense, le prophète Ésaïe en le sciant en deux. Donc voilà, vous imaginez ce que ça représente, enfin, c'est vraiment gore. Mais c'était tellement grave qu'il a été déporté. Une fois qu'il était déporté dans un autre pays, il s'est humilié et il s'est rattaché de nouveau à Dieu. Et Dieu l'a fait revenir dans son pays. Et là, il a été un bon roi. Puis à l'inverse, on a d'autres rois qui ont été bons au départ et qui ont mal tourné. Par exemple, on a le roi Joas qui a été un bon roi. Bon, à sa décharge, il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Pas simple. Mais il était bien conseillé par un prêtre. Et puis lorsque ce prêtre est mort, le roi a commencé à faire des choses bizarres. Il a commencé à opprimer le peuple. Et là, on pense notamment exécuter ou bien laisser lapider un des prophètes qui était venu se réfugier même jusque dans le temple. Donc il avait bien commencé, il a très mal fini. Donc en fait on voit que nos décisions comptent et ce sont chaque fois des décisions lourdes de conséquences. On ne prend pas des petites décisions. Moi je ne crois pas aux petites décisions. Je crois vraiment que quasiment toutes les décisions sont importantes, surtout quand on est jeune. surtout quand on oriente notre vie, surtout quand on choisit sur quoi on veut baser notre existence. Et par rapport aux rois qui se succèdent, c'est comme si chacun des rois n'apprenait pas des générations précédentes. Et nous, alors quand on lit les chroniques, c'est facile, on lit peut-être plusieurs siècles, mais d'un coup, vous savez, genre quelques chapitres, puis on a déjà passé 50 ans, 60 ans. Et puis je me suis dit, mais c'est comme si on me reprochait en fait de ne pas tenir compte des enseignements que mon grand-père a tirés pendant son existence. C'est pas simple. Si tu n'as pas parlé avec, compliqué. Hein. Donc on ne va pas être trop dur avec ces rois. Mais quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui réussissaient, c'était ceux qui étaient attachés à l'Éternel. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont attachés à Dieu. Et au centre de vie, on a fait une série sur adorer Dieu. Et un des prédicateurs disait, adorer Dieu, c'est aimer Dieu. Et c'est vrai. Mais pour moi, aujourd'hui, adorer Dieu, c'est simplement une phrase toute bête, c'est le mettre en premier, en tout premier. Adorer Dieu, c'est le mettre en premier dans ma vie. C'est comprendre notre place, nous sommes les créatures, il est le créateur. C'est comprendre, c'est se positionner pour Dieu, même quand l'environnement n'est pas simple. C'est faire les premières bonnes décisions. Et ce que vous verrez en lisant les chroniques, c'est que l'entourage des rois compte. À chaque fois, d'ailleurs je l'ai lu avant, à chaque fois on nomme le roi, on mentionne à quel âge il est devenu roi, s'il était bon ou mauvais, et puis juste après on nous dit s'il était, qui était sa mère et qui était son épouse. Donc apparemment les femmes, vous avez un sacré pouvoir, c'est bien, mais vous avez aussi une sacrée responsabilité parce qu'apparemment des fois ça tournait mal. Alors, la plupart du temps, lorsqu'une mère de roi ou une épouse de roi venait de Jérusalem, du lieu de l'adoration, là où il y avait le temple, le roi tournait bien. Et lorsqu'elle venait d'un endroit plus éloigné, lorsque le père, c'était par exemple le père du roi, s'était allié par mariage, autrement dit, il avait trouvé une femme ailleurs, dans un autre royaume, pour son fils, et bien là, ça ne se passait pas bien. Et je pense que c'est pareil pour nous, notre entourage compte, ma famille compte, mon épouse compte, ton mari compte. C'est important que tu sois bien entouré dans ta vie. Et je pense que parfois, on peut juste être orgueilleux. Orgueilleux de penser qu'on y arrivera quand même. Même si les personnes de notre entourage sont un mauvais exemple, on se dit, mais j'y arriverai quand même, je ne vais pas lâcher Dieu, je ne vais pas lâcher la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de discussion avec, enfin moi ça m'est déjà arrivé avec des jeunes, une jeune fille notamment qui me disait, oui, je sais que tout le monde me dit que c'est une mauvaise idée de me mettre avec ce gars, mais t'inquiète, ça va aller. Bon d'accord, je sais que je suis déjà la 12e fille cette année, mais il m'a dit que j'étais la bonne, je te promets. Enfin voilà, bref, vous imaginez bien vers quoi ça peut aller. Hein. Donc c'est important de bien s'entourer, de bien choisir. Et puis je pense aussi qu'on doit être extrême, notamment au moment où on choisit un conjoint. Il ne faut rien laisser passer. Enfin, je suis un petit peu trash comme ça, mais je pense que c'est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Évidemment, vous allez vite vous rendre compte que votre amoureux, amoureuse, conjoint, conjointe a des défis, des défauts, des problèmes. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que si on laisse le compromis venir, par rapport à la foi, si vous laissez le compromis venir dans votre vie, vous aurez vite des problèmes. Alors moi, je donne ce conseil maintenant à nos jeunes dans l'église. Lorsque une miss ou un gars t'intéresse, comment tu fais pour choisir? Bon, déjà, ça, on ne choisit pas. Ça vient souvent, le coup de foudre, il y a quelque chose qui se passe. Mais à ce moment-là, il faut prendre une bonne décision. Et la bonne décision, à mon avis, c'est tu cours avec Dieu, puis tu l'ignores un peu. Puis tu cours. Puis tu ignores un petit peu tous ces sentiments. Parce qu'à un moment donné, il faut tester. Est-ce que c'est juste une flamme passagère ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de solide? Et puis ensuite, une fois que tu as bien couru après Dieu, pendant plusieurs mois par exemple, tu lèves la tête puis tu vérifies si c'est lui ou celle qui t'intéresse, il suit aussi Dieu. Puis si c'est le cas, tu te remets à courir encore un peu plus. Puis quelques temps plus tard, tu relèves encore la tête puis tu regardes si il ou elle suit toujours Dieu. Et puis si c'est le cas, bah, tu vas courir mais à côté, tu vois. Et puis tu commences à servir Dieu ensemble, par exemple. Tu commences à t'engager dans des projets comme ça. Puis si tu vois que ça match, ben peut-être que là, c'est la bonne personne. Mais pas avant. Parce que si cette personne, elle est juste jolie, elle est juste sympa, elle est juste, elle te valorise juste, mais qu'elle n'aime pas forcément Dieu, tu auras vite un problème. Mais le problème aussi, c'est que ça, c'est l'idéal, on va dire. Mais des fois, on a des vies qui ne sont pas idéales. Par exemple, c'est possible que vous soyez mariés. Voilà, c'était peut-être un peu sur un coup de tête, puis après vous dites, oulala, est-ce que ça va tenir au niveau de ma foi? Peut-être que vous en êtes là, peut-être que vous faites partie de ces familles où il y en a juste un des deux qui s'est converti, qui a donné sa vie à Jésus, ça peut aussi arriver, et c'est en tout cas pas une raison pour divorcer, ça c'est sûr, même la Bible le dit, mais par contre, je pense que c'est possible, mais ça va être un peu plus technique. Du coup, je vous encourage vraiment à porter votre couple dans la prière, c'est tellement important, de mettre Dieu en premier, y compris dans le couple. C'est tellement important. Notre entourage compte. Et puis, je pense qu'on doit choisir, on doit être conseillé par des gens, mais on doit choisir les personnes qui nous donnent des conseils, parce que sinon, on aura vite des problèmes. Et je pense que trop souvent, on a une vision spirituelle, nous n'avons pas une vision spirituelle de notre vie. On voit notre vie sur la terre, on imagine les 80 ans, 80 qui nous attendent. Et puis, c'est comme si c'était seulement naturel ou matériel. Alors qu'en réalité, il y a une vie, notre vie, elle est spirituelle d'abord. Et surtout, on a un avenir, une vie éternelle, quelque chose qui nous attend. Et parfois, on regarde seulement notre vie sous le prisme naturel. Et ça nous bloque, en fait. Moi, je pense qu'on doit prendre du recul et puis voir notre vie et puis se dire, OK, peut-être que j'en bave dans ce moment, mais par contre, je vois ce qu'il y a derrière. Autrement dit, je peux avoir du courage, je peux avoir de la persévérance, enfin, ce genre de choses. Et je pense que c'est tellement important qu'on ait une vision spirituelle de notre vie. Parce qu'on vit dans ce monde qui est marqué par la souffrance, par la malhonnêteté, par les difficultés, par la douleur, quand même. Quand même, c'est vrai. Même si ce n'est pas que ça, mais il y a de ça. Et en fait, on attend, enfin peut-être que vous n'attendez pas, on n'est pas en mode attente, mais on sait qu'un jour, on va passer dans la vie éternelle. Bien attendant, il y a bien des choses à faire. Et le truc, c'est que moi j'ai réalisé, et la Bible dit aussi, qu'il y a tout un héritage qu'on peut se constituer pour la vie éternelle. L'apôtre Paul dit à un moment donné que les personnes qui seront sauvées, en fait, il y a des personnes qui seront sauvées genre juste ou de justesse, et puis d'autres qui seront sauvées en ayant construit une maison, c'est une image, hein, avec des matériaux nobles comme l'or, l'argent, ce genre de choses, qui résistent à l'épreuve du feu. Mais il y en a certains qui vont construire leur vie avec des matériaux qui sont comme le bois, le chaume, la paille, c'est des choses qui brûlent, et puis le problème, c'est qu'à la fin de notre vie, ça crame, et puis il te reste, t'es sauvé, mais il ne te reste pas grand-chose. Et moi, j'ai vraiment envie que chacun, chacune qui marche avec Dieu puisse repartir avec un héritage dans la vie éternelle. C'est tellement important. Mais sauf qu'on s'imagine que la vie éternelle, c'est un espèce de moment où tout le monde est sur pause, habillé en blanc, qu'on va louer, on va chanter des chants bizarres, on va s'ennuyer. Celles et ceux qui s'ennuient dans les temps de louange aujourd'hui, ils sont inquiets par rapport à la vie éternelle, ils ont l'impression que ça sera nul, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Imaginez la vie qu'on vit aujourd'hui, comme elle est passionnante. Et puis on doit juste s'imaginer que la vie éternelle sera ça, mais en mieux. C'est pas un moment où tu seras sur pause, puis tu devras attendre. Et puis moi, je pense que ce sera tellement passionnant, ça va être génial. Mais le truc, c'est qu'on doit investir aujourd'hui pour notre vie éternelle plus tard. C'est marrant que tu aies, je sais qui, Julien, qui a dit avant, dans Colossiens 3, moi j'avais noté ça, dans Colossiens 3, il est écrit « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » On vit cette double réalité du monde spirituel et du monde terrestre. Et on a un Dieu qui nous aime et qui nous donne les clés pour ne pas nous tromper. Et nous, tellement souvent, on vit notre vie comme s'il y avait un plan B. Mais il n'y a pas de plan B. Il n'y a que le plan A. Il n'y a que le plan que Dieu a prévu. Et nous, on est tellement souvent orgueilleux. On se dit, oui, mais c'est bien Dieu que tu as dit ça, mais moi, je pense ceci. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Et pour moi, adorer Dieu, c'est mettre Dieu en premier, c'est le mettre en tout premier dans notre vie. La plupart d'entre nous, on est OK avec ça. On sait qu'il faudrait mettre Dieu en premier. Le problème, c'est que la plupart ou beaucoup d'entre nous, on ne vit pas selon nos convictions. On se laisse mener notre vie. Enfin, c'est comme si on est une sorte d'animal à qui on a attaché une laisse, puis on se fait conduire dans la vie, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes censés tenir la laisse. Enfin, je sais pas si vous voyez l'image. On est censé diriger notre vie. Et le problème, c'est que si on ne vit pas d'après nos convictions, on se laissera conduire. Alors que c'est à nous de conduire notre vie. On a une responsabilité par rapport à ça. Et souvent, on tord notre éthique, nos valeurs, nos convictions pour ne pas avoir à payer le prix d'un amour radical envers Dieu. Et ça me pose un problème. Et j'aimerais juste vous donner un exemple très, très, très concret qui fait mal. Dans 1 Jean 4, verset 20, il est écrit: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Waouh. D'ailleurs, ça rejoint le passage qui a été lu juste avant. Les relations. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va le voir, va le trouver. On est appelé à vivre dans l'amour. Alors, le test de l'amour, c'est le suivant. Si tu chantes des belles paroles comme on vient de chanter avant, la louange, et on chante qu'on aime Dieu de tout notre cœur, mais, qu'en même temps tu méprises ou critiques ton frère, ton ami, ton voisin, ton pasteur, ton collègue, la personne qui est pas loin assis dans cette salle, par exemple, ou ton patron, par exemple, ou ton employé. En fait, ton amour, il sonne creux. Il sonne creux parce que Jean dit ceci, il n'est pas possible d'aimer Dieu si tu n'aimes pas un être humain, les êtres humains. Ça, c'est juste pas possible. L'adoration sans amour, c'est qu'un prétexte, c'est une fake news, c'est faux. Comme le dit Norman dans toutes ses vidéos. Je ne sais pas si vous aimez ça, moi j'aime bien. Enfin bref, c'est la seule vidéo. Bob, il m'a dit, ah, t'es bien, tu mets des vidéos dans tes prédictions. Voilà, c'était la seule vidéo, désolé. Voilà. Non, je peux pas. Ça casse tout mon PowerPoint, si je suis désolé. Mais c'est faux. Si tu crois aimer Dieu alors que tu n'aimes pas les gens, c'est faux. Ça sonne faux, absolument faux. Si tu dis j'aime Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Point. Si tu as envie de savoir à quel point tu aimes Dieu, réfléchis à combien tu aimes les gens. Tu auras ta réponse. Enfin, moi, ça m'a fait mal. Hein. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'a fait mal quand j'ai réalisé ça. À un homme qui lui demandait quel est le plus grand des commandements, Jésus répondra, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, c'est impossible d'aimer Dieu sans aimer les gens. Juste impossible. Parce que l'amour pour Dieu, en fait, il est de la même nature que l'amour pour les autres. En fait, on parle d'un amour divin. Tu as besoin d'un amour divin. Tu as besoin d'être inspiré par Dieu pour aimer Dieu, mais tu as aussi besoin d'être inspiré par Dieu pour aimer les gens. C'est la même chose. C'est le même muscle. C'est la même chose. Et des fois, on cherche à être plus spirituel en voulant plus aimer Dieu, puis Dieu dit, mais tu seras plus spirituel en aimant plus les gens autour de toi. Et moi, j'ai vraiment envie de vous challenger par rapport à ça. Aimez plus les gens autour de vous. Adorer Dieu, c'est le mettre en premier. Autrement dit, je suis deuxième. Je suis deuxième. Je ne suis pas le premier de ma vie. On n'est pas les premiers. Alors, on peut se poser cette question. Jésus-Christ, il a tout donné pour nous. Absolument tout. Il a tout sacrifié, il allait jusqu'à mourir à petit feu sur une croix, pendu verticalement comme on pendrait une veste, avec des clous. Enfin, il s'est fait fouetter, il ne méritait pas ses coups. Enfin, il y a des choses graves qui se sont produites. Il a tout donné pour nous. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on vous servirait des restes à un Dieu qui nous aime autant? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vivrait le plan B qu'on imagine alors qu'il y a un plan A qui est prévu pour nous? Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait juste une petite partie de notre temps, une petite partie de notre énergie, une petite partie de nos finances, une petite partie de nos relations, alors qu'en fait, il mérite absolument tout? Vous savez, chaque fois qu'on dit « plus tard, Seigneur », genre Dieu te parle, il te dit un truc, puis toi, t'as l'impression qu'il y a un truc plus urgent. Ça vous est déjà arrivé? Ou bien alors « oui, je sais que je devrais lui parler, tu vois, mais j'ai pas le courage ». Ou alors, oui, je sais que tu as promis de prendre soin de moi, mais comme je n'ai pas trop la foi, tu vois, je vais essayer par mes propres forces, ok? Mais par contre, je veux bien venir au culte. Ça, je peux faire. Par contre, tout le reste, je gère. Ou bien alors, il ou elle ne mérite pas mon attention avec tout ce qu'il m'a fait. On a tous un petit peu des phrases comme ça. Et chaque fois qu'on fait ça, chaque fois qu'on dit ça à Jésus, c'est comme si on lui servait les restes de notre vie. C'est comme si on lui... Imagine, t'invites Jésus à la maison pour un repas. Et puis tu fais un bon repas. Puis Jésus, il vient s'asseoir à ta table. Et tu mets deux assiettes. Puis quand c'est le moment de servir le repas, tu te sers juste seulement dans ton assiette. Tu te sers, tu laisses l'assiette de Jésus vide. Puis ensuite, tu manges. Puis il a peut-être un truc intéressant à dire, alors tu l'écoutes, mais tu manges. Puis ensuite, quand t'as fini... Enfin, t'as plus faim, il reste un peu de pâte dans ton assiette. Il reste un bout de poulet tout grignoté. T'as bu du vin, mais il y a encore, il reste la moitié de ton verre de vin. Et puis après, tu dis, bon, ok, ben Jésus, si t'as faim, voilà. Puis tu lui sers ton assiette. Mais qui c'est qui a envie de manger dans une assiette comme ça? Même mes propres enfants, j'ai pas envie de manger dans leur assiette parce que je trouve que c'est tellement Enfin bref. Donc t'imagines, tu ferais ça à Jésus. Ou bien tu lui sers ton verre de vin dans lequel tu as bu, puis tu lui sers un verre qui est à moitié vide avec les traces encore sur le bord du verre. Enfin, tu dis, tiens, Jésus, c'est le mieux que je peux te donner. Enfin, on fait tellement souvent ça avec Jésus. Alors qu'il mérite tout, pourquoi est-ce qu'on servirait des restes? Pourquoi est-ce qu'on servirait des restes à un Dieu qui nous aime tant? En fait, c'est le chapitre d'un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle « Amour fou » de Francis Chan. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Moi, j'aurais dû peut-être vous l'amener, mais c'est un livre extraordinaire. Ça m'a perturbé, ça m'a empêché de dormir plusieurs fois, tellement c'est vrai. Et puis du coup, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on servirait des restes à un Dieu qui nous aime tant? Pourquoi penser qu'on arrivera mieux par nous-mêmes? Pourquoi penser qu'on est numéro un dans notre vie alors qu'en fait, ça ira pas mieux. Ça ira pas mieux si on est numéro un parce qu'on est censé être deuxième. On n'est pas censé être numéro un de nos vies. On est censé être numéro deux. On n'a pas été créé pour être numéro un. Jamais. Même Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'étaient pas censés être les numéro un. Alors pourquoi est-ce que nous, on imaginerait qu'on peut l'être ? Il n'y a rien dans notre vie, dans notre condition humaine, qui nous montre qu'on a le droit d'être numéro un. Mais on se comporte comme si c'était le cas. C'est incroyable. C'est comme si on n'avait rien compris, en fait. Tout nous prouve qu'on a besoin d'une personne parfaite aux commandes de notre existence. Et nous savons que nous ne sommes pas parfaits, on a quand même envie d'avoir la première place. Et c'est là qu'on a un problème. Il n'y a pas de plan B, encore une fois. Il n'y a que le plan A, c'est Jésus en mode numéro un. Et c'est tout. Et avec des jeunes dans l'église qui sont stagiaires chez nous, on a commencé à lire un livre sur l'humilité. Ça a été écrit par un auteur qui est décédé depuis au moins 200 ans, qui s'appelle Andrew Murray. C'est un pasteur sud-africain qui a écrit un livre qui s'appelle « L'humilité, un chemin vers la sainteté ». Et dans ce livre, il y a 12 chapitres, assez petits, suffisamment petits pour qu'on en lise juste un par semaine, puis qu'on se prenne une baffe chaque fois qu'on le lit. Et puis ensuite, on discute et on débat par rapport à ça. Et par rapport à l'humilité, par rapport au fait de laisser Jésus à la place de numéro 1 et de nous être en numéro 2, c'est incroyable parce qu'on réalise que l'orgueil s'infiltre par tous les côtés, tout le temps. Et puis la Bible nous encourage à travailler à notre humilité. Puis une fois qu'on a bien bossé ça, on se dit qu'on est humble et bam, ça revient. C'est incroyable, c'est incroyable. L'orgueil nous prend tout le temps par surprise. On a l'impression, vous imaginez le pharisien qui prie, c'est une histoire que Jésus raconte, le pharisien qui se retrouve à la synagogue et qui prie, qui dit « Merci Seigneur, parce que moi je jeûne deux fois par semaine, je donne ma dîme de tous mes biens, etc. Je suis au moins pas comme celui-là là-bas derrière, qu'on sait qu'il a un métier pourri, qui est en train de travailler avec les Romains, etc. » Puis en fait, au plein milieu de son adoration, Jésus il pointe l'orgueil de ce gars. Puis nous, on est des fois comme ça, on est en plein milieu de notre adoration, on donne tout. Franchement, jeûner deux fois par semaine, je sais pas qui d'entre vous le fait, mais c'est pas simple. Donner sa dîme, le 10% de nos revenus, fondamentalement biblique, ça n'avait pas été enlevé par Jésus, enfin Jésus il a plutôt confirmé ça, c'est pas forcément facile quand tu réalises que tout d'un coup tu devrais donner une part de ton argent à Dieu. Et puis le pharisien il le faisait, extérieurement c'est un super chrétien, puis en fait au plein milieu de son adoration, Jésus va pointer du doigt, il va dire ça c'est pas juste, alors que le gars là-bas qui donne pas sa dîme, le gars qui jeûne pas, le gars qui fait des affaires louches, il se rend compte qu'il est pauvre, qu'il est misérable, que spirituellement il y a un bug, et puis lui par contre il va revenir justifié. Les valeurs de Jésus sont différentes des nôtres, hein, souvent. Alors, chaque fois qu'on se met à diriger nos propres vies, on dit à Dieu, je pense mieux faire que toi, mieux savoir que toi. Ou bien peut-être qu'on n'est quand même pas aussi grave, alors on dit, je sais bien que tu m'as dit que je devrais faire de telle manière, mais moi, tu vois, dans ma circonstance, dans tout ce que je traverse actuellement, tu vois comme je suis fatigué, tu vois la situation avec mon boss, tu vois la situation avec mes enfants, du coup je vais plutôt faire autrement. Mais en fait, on dit juste à Dieu qu'on n'en a rien à faire de ce qu'il dit. Et moi ça me rappelle quelqu'un, deux personnes qu'on retrouve au tout début de la Bible, Adam et Ève, dans le jardin. Dieu leur dit, vous pouvez manger de tout sauf de celui-là. Ok, on a compris. Puis tout d'un coup ils se font tenter par le serpent. Puis finalement, ils disent à Dieu, en gros, ils disent, ben, on va manger de ce fruit parce que si ça se trouve, tu nous as caché un truc. C'est tellement orgueilleux, c'est l'orgueil de nouveau. Adam et Ève, c'est... Ouais. Et puis alors tout le monde se dit, ouais, moi je ne le ferai jamais. Mais en fait, si tu analyses ta vie, pour celles et ceux qui ont un problème, par exemple, avec la pornographie, tu sais que ce n'est pas bien. Tu dis, Adam et Ève, jamais j'aurais mangé dans ce fruit. Mais par contre, tu vas sur des sites. Je suis désolé, hein, c'est la même chose. Ou bien alors, tu triches au niveau de ta déclaration d'impôt, c'est la même chose. Tu traites mal ton conjoint, c'est la même chose. Tu montres un mauvais exemple à tes enfants, c'est la même chose. T'es jaloux, c'est la même chose. En fait, on est Adam et Ève tout le temps. Puis l'autre jour, au moment de mettre nos enfants au lit, il y a un de mes enfants qui me dit, mais t'imagines si Adam et Ève, ils n'avaient pas mordu dans ce fruit, on serait tout nuls, là. Je fais, ouais, bon, c'est pas forcément l'enseignement principal de cette histoire, mais... Enfin, voilà. Des fois, les enfants, ils disent des choses bizarres. Une fois, il y en a un qui vient vers moi, puis il me fait, papa, tu sais quelle est la différence entre toi et une grue ? Je fais, écoute, il y a beaucoup de différences, mais non. Mais il me dit, bah, c'est simple, en fait, la grue, elle porte des caisses, mais toi, tu lâches des caisses. J'étais là, merci. Merci mon fils. Donc celles et ceux qui sont parents, vous savez qu'il y a des choses comme ça qui peuvent vous arriver. Donc préparez-vous. Moi ça m'a fait bizarre parce que à un moment donné, tu vois, tu te fais dépasser par l'humour de tes enfants et là ça fait mal, ça te met un petit coup dans ton orgueil. Voilà. Bref, on va passer à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on pense que le fait d'être numéro un dans notre vie permettra d'aller mieux ? Je ne sais pas pourquoi. Ça ira en empirant. Parce qu'on n'est pas créé pour être les numéros un de nos vies. On est créé pour être les deuxièmes. Comme j'ai dit, adorer Dieu, c'est le mettre en premier. Alors ça signifie que je consulte Dieu, par exemple, avant de prendre des choix, de faire des choix, avant d'orienter ma vie, avant de dépenser mon argent, avant de porter un jugement sur une personne ou sur une situation. Parce que nous, on a des réflexes de jugement. Vous avez déjà remarqué, il y a quelqu'un qui fait un truc, puis tout de suite... Ouais. Par exemple, ce matin, en arrivant ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je dépasse quelqu'un. Je roulais un peu vite, j'étais en retard. Mais désolé. Je n'avais pas compris qu'il y avait toute la collation avant, j'aurais pu me permettre d'arriver un peu en retard. Bref. Ah ouais, vous avez fait exprès. Ouais, merci. Et puis, je dépasse les personnes. Et puis, en fait, en le dépassant, le gars, il accélère. Mais j'accélère franchement, moi aussi, puis il continue d'accélérer, accélérer, accélérer. Puis tout de suite, j'étais là, oh, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il n'a pas envie de se faire dépasser. Dans ma tête, quelle espèce d'orgueilleux. Hein, voilà. Et puis en fait, bah, peut-être que c'était ça, j'en sais rien, mais peut-être aussi qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il accélérait. Enfin, des fois, ça m'arrive, on me dépasse, puis machinalement, j'accélère en même temps, mais ce n'est pas forcément que je fais la course. Mais mes enfants, Non, je ne crois pas qu'ils ont remarqué, mais Clivy, elle a remarqué aussi, elle s'est dit, ouais, c'est bizarre. Bah, voilà. Des fois, on a tendance aussi à porter un jugement sur des situations. Ça, c'est un truc tout bête. C'est pas grave, mais des fois, des situations beaucoup plus embêtantes. Mais aussi, je propose de consulter Dieu avant de démarrer nos journées. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, je suis pas du matin. » Ben ouais, ben... Mais par contre, les gens que tu croises, peut-être qu'ils ont besoin d'un sourire plutôt qu'un tirage de tête. Peut-être qu'ils ont besoin d'une parole encourageante. Peut-être qu'ils ont besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour démarrer ta journée. Mais je peux te garantir que ton conjoint, il a besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tes enfants, ils ont besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tes collègues aussi. Et c'est important. Et il y a des gens qui me disent « Ouais, je ne suis pas du matin, je ne prends pas de temps avec Dieu le matin. » Moi, j'ai envie de te dire « Mais c'est dommage. » Enfin, je veux dire, force-toi un tout petit peu. Démarre ta journée avec Jésus. Je pense que c'est important. Dans Romains 12, par rapport aux relations, il est écrit... Paul écrit ceci, il dit « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Et c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. » C'est une traduction qui s'appelle « Parole vivante », j'aime bien parce que justement ça met des choses en relief. Et ce que je trouve très intéressant dans cette parole, c'est que, dans ce texte, c'est que Paul... Avant Romains 12, il explique tout, le péché, la grâce, la justification par la foi, tout, il explique absolument tout. Et il conclut avec « Je vous demande donc, frères », autrement dit, il se réfère à ce qu'il vient de dire, il vient leur dire « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice d'adoration ». Et ensuite, dans les trois chapitres suivants, enfin Romains 12, 13 et 14, il va lister une quantité de choses ou d'exemple, comment est-ce qu'on peut adorer Dieu avec notre corps? Et ça, je trouve fantastique. Parce que si tu n'es pas quelqu'un qui aime chanter, par exemple, ou qui aime, tu peux dire, je vais trouver d'autres façons d'adorer Dieu. Et bien là, il y a des pistes. Il y a des pistes extraordinaires. Et puis aussi pour ceux qui aiment chanter, d'ailleurs. Mais bon. Et il dit ceci. Donc c'est de nouveau dans cette traduction parole vivante. Il dit ceci. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans hypocrisie. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Par exemple, la triche, par exemple, le fait de ne pas dire toute la vérité. Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien, attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frère. Rappelez-vous ce que j'ai lu dans le passage de 1 Jean 4, 2, qui dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu n'aimes en fait pas Dieu. Et dit, aimez-vous en frère d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant, tire au flanc par exemple, dans votre travail. En fait, si tu veux bien adorer Dieu, tu dois bien bosser. Moi, des fois, je rencontre des chrétiens qui passent leur temps à témoigner sur leur lieu de travail. J'ai rien contre ça, mais le problème, c'est qu'ils bossent mal. Donc, du coup, ils croient être super spirituels en parlant de Dieu à leurs collègues, puis en fait, ils font couler la boîte. Je suis désolé, c'est quoi l'exemple qu'on laisse aux gens? Donc, ne soyez pas des tire au flanc. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive. Éclaire la flamme que l'Esprit a allumée en vous et servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance, autrement dit, pas de vos circonstances, jamais. Notre joie découle de notre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Alors par exemple, prier une fois par mois, c'est régulier. On ne peut pas vraiment dire que c'est persévérant. Hein ? Donc prier avec régularité et persévérance. Donc il faut prendre les deux. Non, parce que des fois, j'entends des gens qui disent « Ouais, je viens à l'église une fois par année, c'est régulier. » C'est vrai. C'est pas faux. Verset 14. « S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, comme par hasard, hein, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux, ou de les critiquer, par exemple. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. » Je me suis dit, mais c'est qui les humbles? En fait, les humbles, ben, c'est tous ceux qui ne sont pas considérés comme grands. Par exemple, les enfants. Par exemple, les personnes qui sont pauvres. Par exemple, les personnes qui sont malades. Par exemple, les personnes qui parlent pas notre langue. Par exemple, les personnes qui viennent d'un pays en guerre. Par exemple, on parle des migrants, hein, par exemple. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Alors on pourrait se dire, mais c'est trop dommage parce qu'on est censé gagner le monde pour Dieu. Comment est-ce que je vais me concentrer sur des tâches modestes? Mais en fait, ce que Paul dit, il dit, mais bien sûr, il faut faire des grandes choses. Par contre, il ne faut pas que ce soit ton moteur. Ton moteur, c'est Dieu. Et puis, c'est lui qui va ouvrir les portes et tu vas réaliser des grandes choses. Mais si toi-même, tu choisis par tes propres forces d'essayer de faire des trucs grands, ce qui va se produire, c'est que tu vas t'isoler, tu vas blesser les gens autour de toi. Alors qu'en réalité, il faut élever les autres, il faut laisser les autres passer en premier. Et quand ce sera ton temps, c'est Dieu qui va t'élever. Ce n'est pas toi qui dois t'élever toi-même. Ne vous surestimez pas, ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas, alors là c'est un gros mot, l'outrecuidance. Donc c'est dans la parole, je suis désolé. Alors ça veut dire confiance excessive en soi-même. Donc n'ayez pas la confiance excessive en vous-même de penser que vous avez déjà tout compris. Waouh. En fait, c'est exemple de comment tu peux adorer Dieu. Le verset, c'est ce verset-là. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel. C'est spirituel, c'est pas que naturel. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, donc raisonnable, intelligent, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Et moi, je trouve que trop de fois, en tant que chrétien, on sépare les deux. Puis on se dit, je vais être super spirituel à l'église ou dans le groupe de vie ou peu importe. Et puis ensuite, je vis ma vie pépère. Puis en réalité, ce qu'on réalise pas, c'est qu'il y a tout qui est spirituel. Faut qu'on arrête de faire le tri entre spirituel... Et naturel, ou bien entre le sacré et le profane. Il y a tout qui est sacré, il y a tout qui est spirituel. Quand tu fais un compliment à quelqu'un, c'est spirituel. Quand tu aimes ton conjoint, c'est spirituel. Quand tu éduques tes enfants, c'est spirituel. Quand tu payes tes impôts, c'est spirituel. Amen. C'est bientôt, hein, la déclaration d'impôt, ça vient. Mais franchement, c'est tellement important. Parce qu'on peut vite tricher un petit peu. Voilà, on est tous tentés, hein, par rapport à nos finances, souvent. Enfin, je pense que les finances, c'est un petit peu le test de la foi. Je parlais de la dîme avant. Si par exemple, je vous montre 100 francs en billet de 10, et puis je vous pose la question, c'est quoi la dîme? Vous répondez, 10 francs, mais c'est presque juste. C'est les premiers 10 francs. Parce que quand tu donnes ta dîme, en fait, tu dis à Dieu, je te donne une part, puis après, je te fais confiance que pour payer mes factures, ça va suffire. Le reste va suffire. Mais si tu payes toutes tes factures puis que tu as un assez grand revenu qui te permet de finalement donner 10% à l'église ou aux œuvres chrétiennes, ta foi, elle n'est pas mise en jeu. Et alors, c'est pour ça que moi, je challenge les gens. Je leur dis, mais quand tu donnes ta dîme, tu donnes la première partie. D'ailleurs, l'Ancien Testament parle des prémices, ce qui vient d'abord. Abel, dans la Genèse, quand il a offert à Dieu son sacrifice, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu il accepte ce sacrifice-là puis pas l'autre? Mais en fait, Abel, il a donné son premier-né. C'est marqué dans la Genèse. Il a donné le premier. Donc autrement dit, il avait des brebis et puis il se dit, bon, elle en a fait un agneau, je l'offre à Dieu, j'espère bien que Dieu va permettre qu'elle en fera d'autres, qui seront pour moi. Puis en fait, la dîme, c'est le même principe. Quand on donne notre argent à Dieu, on donne la première partie, puis on lui dit, Seigneur, je te fais confiance. Et puis après, on verra ce qui se passe. Puis moi, je donne ma dîme depuis, je sais pas, l'âge de 14 ans peut-être, depuis que j'ai à peu près un argent de poche décent. Et puis, j'ai jamais été dans le besoin. Parfois, c'était un peu stretch, mais quand même, Dieu a pourvu. Et j'ai vraiment envie de vous encourager dans ce sens-là. Au niveau des finances. Alors, pour conclure, j'aimerais proposer peut-être, est-ce que l'équipe de louanges ou bien juste David, je ne sais pas, tu peux peut-être faire un petit musical, ça marche? Je te filerai mes notes si tu veux noter la suite. C'est bon? C'est cool, il prend des notes. Franchement, tu es un bon exemple. Un petit musical comme ça, tranquille. Et puis, ce que je voudrais vous proposer, c'est que je vais relire le passage que j'ai lu avant, le long passage, là, avec toutes ces actions différentes pour adorer Dieu. Et j'aimerais qu'on vive ça sous forme d'appel. Autrement dit, quand je lis un passage qui vous concerne, vous vous levez. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie. je ne suis pas à votre place. Moi, je le ferai à votre place, en tout cas. Et puis, vous vous levez. Et puis, après, on demande tous à Dieu, ben, viens nous aider dans ce domaine compliqué de ma vie. Et peut-être que c'est dans le jugement, peut-être que c'est dans l'honnêteté, peut-être que c'est dans la manière dont tu traites les autres, peu importe. On est tous imparfaits, et puis on a tous un Dieu parfait qui nous propose un plan A, le plan de le suivre lui. Et j'aimerais relire ces passages dans Romains 12, 9 à 16. Alors, je vous laisse vraiment vous lever quand c'est le moment pour vous, et puis si vous êtes le premier à vous lever, vous inquiétez pas, normalement, il y aura presque toute la salle après qui sera debout. Donc. Sinon, c'est que vous êtes vachement parfait. L'amour, Romains 12, verset 9. Ouais, Seigneur, viens vraiment nous toucher notre cœur maintenant et qu'on puisse être vrai devant toi et puis vrai devant les amis. Parce qu'on a tous des besoins, on a tous des manquements et je te demande, Seigneur, que tu viennes toucher notre cœur. Amen. L'amour ne supporte pas les masques, que le vôtre soit donc authentique et sans hypocrisie. Ne jouez pas un rôle, donc. Hein. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur. Et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous êtes en supérieur. Autrement dit, ne cherchez pas les premières places. Ne cherchez pas à être reconnu. Ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas dans la comparaison, mais laissez élever les autres autour de vous. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Donc travaillez bien. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur, donc pour Dieu, hein, votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Comme je disais avant, non, pas de vos circonstances. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, les difficultés surviennent, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Je pense à la maladie, par exemple, à la perte d'un proche, à la perte d'un travail. Supporte avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaire des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les avec vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Autrement dit, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter cher. Exercez vos devoirs d'hôtes avec empressement et bonne grâce. Et s'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Autrement dit, ayez de la compassion pour eux. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez en pleine harmonie. Ne frayez pas seulement avec des gens importants et complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses, adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas, ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Ne soyez pas trop confiant en vous-même. Oh, Jésus. Seigneur, on est là devant toi ce matin. Tel qu'on est, avec nos faiblesses, avec nos défauts, avec nos problèmes. Mais on est surtout là avec un grand Dieu. Et moi, Seigneur, j'aimerais juste simplement t'inviter dans nos vies maintenant. Et chacun d'entre nous, on sait pourquoi on s'est levé. On sait pourquoi on a dit qu'on avait besoin de toi, en mode numéro un. Et je te prie, Seigneur, que dans les temps qui viennent, tu viennes semer les bonnes graines. Alors qu'on a peut-être laissé pousser de mauvaises choses dans nos vies, on te demande de venir semer les bonnes graines. Et quand ça viendra à maturité, on verra les fruits, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous laisses pas livrer à nous-mêmes. Mais tu nous prends avec toi. Et tu nous emmènes. Merci, Seigneur, parce que tu nous guides. Et je te prie que cette église puisse continuer de grandir comme elle le fait déjà. Qu'elle puisse continuer de porter du fruit. Parce que les gens qui sont à l'intérieur sont des gens qui t'aiment d'un amour radical, d'un amour fou, qui ne te laissent pas les restes de leur vie, mais qui te servent un plat de fête, Seigneur. Merci parce que tu nous accueilles dans ta vie comme on peut t'accueillir dans la nôtre, Seigneur, et tu nous prends avec, tu ne nous laisseras jamais seuls. Sois élevé, Seigneur Dieu. Amen.
Merci beaucoup, Sam. Je vous invite, on finit avec un chant d'adoration pour lui dire merci pour cette matinée. Donc restez debout. Moi, je suis toujours surpris d'un dimanche à l'autre de voir comment Dieu travaille. Alors que je suis sûr qu'il n'a pas dû écouter le message qu'on a donné il y a deux semaines, mais encore une fois, ce que j'entends, je peux me permettre pour ceux qui sont là depuis semaine en semaine. Il y a deux semaines, Dieu nous a appelés au buisson ardent pour venir regarder le « Je suis ». Vous vous rappelez ? « Je suis ». Et aujourd'hui, il nous dit « Tu es le deuxième, je suis le premier ». Et nous rappelle à nous centrer sur lui. Et quand on prend l'appel, on portait son nom, on va aller porter son nom dans les nations, on le suit. Et si on veut porter son nom, on doit être centré sur lui. Et ce n'est pas une attitude, ce n'est pas des apparences, ce n'est pas des circonstances, mais c'est un cœur. Un cœur centré sur lui, un cœur d'adorateur. Et on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de ce Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous guide, qui nous donne cette patience, cet amour, cette bonté, bienveillance, maîtrise de soi. On a besoin de ce Saint-Esprit. Alors Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont levées ce matin, qui ont reconnu qu'ils étaient souvent les premiers et qu'ils ont pris la place du deuxième. C'est une décision de cœur, c'est comme une conversion, hein. C'est un choix d'humilité. Et tu as promis dans la parole qu'après l'humilité, il y a la gloire qui vient. La gloire qui vient rayonner, ta gloire qui vient rayonner sur notre vie, afin que d'autres puissent connaître cette lumière. Alors Saint-Esprit, on te donne ce matin toute la place pour travailler nos cœurs, nos vies, et qu'elles soient à la hauteur de ton nom, parce que tu es le premier. Et nous sommes là pour te servir avec amour, joie, et désintérêt. À toi la gloire, Père, pour ce que tu as fait. Merci Samuel d'être venu nous amener cette parole de Dieu ce matin.